Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Ravi de vous retrouver pour une heure d'infos, de débats, d'opinions également à partir de 13h comme tous les jours. Vous avez la parole au 3210. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir à l'actualité de ce mardi 16 août. Une actualité marquée par une nouvelle crainte venue du ciel. Cette fois, c'est la pluie qui risque d'engendrer des dégâts. 5 départements sont particulièrement surveillés. Bonjour Claire Delorme.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
De violents orages sont attendus en Occitanie.
Exactement, à partir de cet après-midi, ça concernera dans un premier temps le Tarn, l'Aveyron et l'Aude, et puis plus tard dans la soirée, le Gard et l'Hérault. Donc des orages particulièrement forts, donc c'est-à-dire d'importantes chutes de grêle, d'importants cumuls de pluie, environ 1 à 2 mois en l'espace de quelques heures, voire de quelques minutes, mais aussi de fortes rafales de vent. Donc une situation à surveiller d'une plus grande prudence, mais partout ailleurs, les orages aussi pourraient se montrer localement violents. Voilà.
Merci Claire et à tout à l'heure. Tué pour avoir réclamé le calme à un conducteur de scooter, un jeune Afghan de 27 ans a été abattu dimanche à Colmar. Le meurtrier présumé est toujours en fuite. Et puis en Angleterre, le procureur n'a pas terminé de dire ce qu'il reproche à Benjamin Mendy. Je vous rappelle qu'hier, il a qualifié le footballeur français de prédateur. La question du jour concerne l'allocation de rentrée scolaire versée aujourd'hui. Vous semble-t-elle suffisante? Vous avez répondu oui à 71%. Non, à 12%.
RTL Midi.
Jamais la pluie n'aura suscité autant de réactions positives sur les réseaux sociaux. Après la canicule, la sécheresse, elle était très attendue. Sauf que, dans certains départements, Claire nous le disait, elle provoque désormais quelques craintes. L'Hérault, le Gard, l'Aveyron, le Tarn et l'Aude sont placés en vigilance orange à partir de cet après-midi à cause des risques d'inondations, mais aussi de grêle. Bonjour Patrick Hisson.
Bonjour Agnès.
Vous êtes à Perrin, au Montel, dans le Tarn. C'est là que vous avez rencontré un agriculteur qui, du coup, Patrick, il ne sait pas s'il doit franchement se réjouir.
Exactement, parce que si tout le monde attend ici comme ailleurs la pluie avec impatience, eh bien Cédric Vogt, qui a 215 hectares, dont une cinquantaine de céréales, de maïs et de soja, a très peur de la violence potentielle de ces orages, et notamment de la grêle qui avait touché l'an dernier son exploitation.
Voilà, j'ai été grêlé l'an dernier où j'avais perdu 100% de ma production, mais avec une grande différence par rapport à cette année, c'est qu'on était au mois de juin, donc j'ai pu ressemer derrière du maïs pour faire de l'alimentation pour mon troupeau. Aujourd'hui, si je suis grêlé aujourd'hui, on est à 8 jours de la récolte, 10 jours de la récolte, c'est fini, j'aurai plus rien. Donc si en plus je n'ai pas mon maïs pour donner à manger aux vaches, il y a une grosse inquiétude.
Voilà, de l'inquiétude, donc d'autant qu'un vent assez fort s'est levé ce matin, vous l'entendez peut-être un petit peu derrière moi, et cela n'est jamais très bon avant des orages ici.
Oui, le vent, généralement, avant des épisodes orageux violents, il y a un gros coup de vent juste avant.
C'est le cas actuellement?
C'est le cas actuellement, oui.
Croisons les doigts pour cet après-midi.
Ben voilà, je croise les doigts. J'attends la pluie avec impatience, mais modérément, et en tout cas pas d'épisodes violents.
Pour l'heure, il fait encore soleil ici au pied de la montagne noire, une trentaine de degrés avant l'arrivée des premiers orages, donc à partir de 15h cet après-midi.
Merci beaucoup Patrick Hisson, en direct de Perrin au Montel, dans le Tarn, c'est tout près de Mazamet, à quelques kilomètres. Autre endroit où l'on attend la pluie avec un peu d'appréhension, c'est dans le Gard, à Rousson, une commune frappée par des inondations dévastatrices en 2002. Nous sommes avec le maire de la commune, Guylain Gassary. Bonjour monsieur le maire.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL. On parlait d'appréhension. Elle est réelle, cette appréhension?
Bah écoutez, elle est réelle comme chaque fois où on nous annonce ce genre d'événement. Et qui plus est, après une sécheresse depuis presque 3 mois où il n'est vraiment pas tombé d'eau à part un peu dimanche. Donc c'est vrai que l'appréhension est réelle aujourd'hui. On attend.
Est-ce qu'il est possible d'anticiper?
Écoutez, l'anticipation est toujours très difficile puisqu'on ne connaît pas exactement les quantités et exactement où c'est que ça va tomber. Après, là où on anticipe au maximum, eh bien, depuis 2002, on a une grosse campagne de prévention, d'information de la population pour que cette culture du risque permettent en tout cas de préserver les vies humaines, même si des fois il y a des dégâts matériels, ça passe au second plan. Donc information. On explique aux gens de ne pas sortir, de rentrer tout ce qui peut s'envoler, et surtout de ne pas se déplacer, de ne pas aller près des cours d'eau. Voilà, c'est plus de la prévention que vraiment des travaux ou autres, parce qu'on ne sait jamais... On ne sait jamais ce qui peut se passer. Quoi.
Parce que 20 ans après, le souvenir, évidemment, est toujours là. C'est un véritable traumatisme pour votre commune. À l'époque, il y avait eu 3 décès, un papa et ses 2 jeunes enfants. Effectivement, à part la prévention, vous dites on est un petit peu démunis. Que faire d'autre?
Écoutez, on a engagé pas mal de travaux, comme beaucoup de communes du Gard, pour ne pas dire la totalité des communes gardoises. Mais le problème, c'est que c'est de plus en plus souvent, c'est de plus en plus après des sécheresses, c'est des quantités de plus en plus importantes. Donc on fait des travaux, on fait au maximum, mais on n'est pas à l'abri de toujours plus. Donc c'est la prévention et surtout la préservation des vies humaines qui importe le plus. Hein. Donc on explique bien aux gens de rester chez eux, en hauteur si possible, voilà, de ne pas se déplacer, de ne pas prendre des voitures, de ne pas aller faire du sport, de ne pas aller se promener autour des cours d'eau. C'est vraiment la seule et unique façon de préserver des vies humaines.
Et y a-t-il un dispositif d'alerte?
Oui, tout à fait. Depuis 2002, nous avons un système automatique d'appel où chaque fois qu'il y a des alertes météo, nous informons la population. Alors bien évidemment, ceux qui ont voulu s'inscrire, puisqu'on ne peut pas obliger les gens à le faire. Mais oui, nous avons un système d'alerte qui diffuse des informations. Et en même temps, bien sûr, nous avons, comme toutes les communes, nos plans communaux de sauvegarde qui nous permet de nous mobiliser et de réagir le plus rapidement possible.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Guislain Gassary, maire de... Ghislain, pardon, excusez-moi, j'avais un petit peu... Mais je me suis dit, Guislain, c'est marqué comme ça sur ma fiche, je me suis dit, ça peut être aussi ça. Merci beaucoup, Ghislain Gassary, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de Rousson, dans le Gard. RTL, midi 36, à Colmar, un homme soupçonné de meurtre est toujours en fuite. Dimanche, il a tiré sur un jeune Afghan de 27 ans. Un jeune qui lui avait demandé de faire un peu moins de bruit avec son scooter. Quelques minutes après, le conducteur est revenu, armé. Ce qui laisse les proches de la victime sans voix.
Il a pris le pistolet juste en face d'Abdul, il a tiré. Mais ils sont partis tranquillement. Il n'a pas couru, il n'a rien du tout. Il était avec un pistolet comme ça, il était parti tranquillement. Et qu'est-ce qu'il va penser les enfants? Il va pleurer, c'est tout. On n'est pas en France, on est en Europe. Est-ce que c'est normal qu'Abdel est mort, on reste tranquille? Nous, on n'a fait rien du tout. On a parti d'Afghanistan pour la guerre, on est venu ici. Là, il y a quelqu'un qui m'a tué ici. Et est-ce que c'est normal? Et là, il a tué avec juste avec les parler. Il tue quelqu'un. Et il passe tranquille. Qu'est-ce qu'on fait en France alors?
Des propos recueillis par Yannick Holland à Colmar pour RTL. En Mayenne, le personnel de l'hôpital de Laval ne sait plus quoi faire pour faire prendre conscience de l'urgence de la situation. Deux syndicats alertent le procureur de la République dans un courrier envoyé vendredi. Ils avertissent le manque de personnel met en danger soignants, mais aussi patient, Pierre-Baptiste Vanzini.
Cela fait des mois que les personnels déclenchent des droits d'alerte, rédigent des signalements auprès de leur direction, mais rien ne change. Les syndicats, en saisissant le procureur de la République, veulent mettre l'État devant ses responsabilités. Selon eux, s'il y a 110 lits fermés ici cet été et que l'accès aux urgences est régulé comme la nuit prochaine, c'est à cause d'un manque de moyens structurels que dénonce Meriem El Hamdaoui, infirmière et secrétaire CGT de l'hôpital.
On incrimine l'État. Aujourd'hui, on nous avait dit qu'on ne nous oublierait pas. On est oublié. Le signalement au procureur de la République nous semblait vraiment nécessaire et important aujourd'hui afin de dédouaner nos collègues en cas de problème qui pourrait surgir sur l'établissement demain. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'ensemble du personnel est en souffrance, qu'il y a une mise en danger d'autrui par la fermeture, par exemple, des urgences la nuit ou le manque de personnel dans certains services.
L'accès aux urgences est régulé la nuit prochaine, comme 9 autres nuits en ce mois d'août. Ce sera certainement 10 nuits au mois de septembre. Les syndicats vont appeler de nouveau le personnel à se mobiliser ici à Laval à la rentrée pour réclamer davantage de moyens.
Le reportage de Pierre-Baptiste Vanzini à Laval pour RTL.
RTL Midi.
L'inflation est cette fois au rayon scolaire. très nette, inflation. Alors que les parents doivent acheter les traditionnelles fournitures de rentrée, la facture devrait augmenter cette année de 4,25% par rapport à l'année dernière. C'est ce que révèle une étude de Famille de France. Du coup, eh bien, au moment de choisir, cahier, trousse et autres classeurs, ça pique. Vous avez pu le constater dans un supermarché de la région parisienne, Gilles Rousset-Favier.
Caddie en main, Nadia et sa fille de 9 ans, Myriam, cherchent les bonnes affaires. Mais à chaque étiquette de prix,
c'est pas donné.
Elle grimace.
En fait, tout est cher parce que quelque chose qui était à 1,50€, maintenant on le trouve à 3€, à 4,50€. Du coup, un crayon qu'on achetait avant à 1€, là et là maintenant à 2€, 3€. Du coup, tout est. Il n'y a rien qui est moins cher.
Montant total des courses, 111€ pour Nadia qui attend à présent de toucher ses 392€ d'allocation rentrée scolaire. Malgré cette aide, pas d'achat super. Nadia a appris à sa fille à comparer minutieusement les prix.
Bah, ça revient moins cher que les autres. Les autres, c'est 5€ de marge.
Elle a l'habitude que quand je l'envoie pour acheter quelque chose, moi je lui dis, t'as droit à 5€. Du coup, voilà, elle va regarder jusqu'à trouver quelque chose de 5€ pour le payer.
En complément de l'allocation rentrée scolaire, les familles les plus modestes pourront toucher une prime exceptionnelle de 100€ versée courant septembre.
Exactement, l'allocation rentrée scolaire est versée aujourd'hui et elle est revalorisée de 4% pour contrer l'inflation. Des conditions inadmissibles, tant pour les voyageurs que pour les salariés de la SNCF. Cheminots, le syndicat dénonce l'état de certains Ouigo, ces trains grande vitesse, low cost. Ce sont surtout des problématiques de maintenance qui sont en cause, ce qui occasionne des pannes de climatisation, des WC condamnés, mais aussi l'apparition de certains nuisibles, comme l'explique Alexandre Lecomte, contrôleur à bord de ces Ouigo.
L'arrivée de cafards depuis début juillet à peu près, on est à 3 rames d'impactés, dont une notamment qui est sur l'axe Paris-Sud-Est, qui peut aussi bien faire du Paris-Marseille que du Paris-Montpellier. Les toilettes, ça s'est quand même drôlement amélioré avec le fil du temps. On a toujours, mais ça se voit un peu moins puisqu'elles sont, elles sont traitées plus régulièrement. Malheureusement, les problèmes de climatisation, oui, nos rames roulent beaucoup plus qu'un TGV classique, qui fait qu'on n'a pas assez de temps pour entretenir toutes nos rames comme il faut.
Des propos recueillis par Martin Choc pour RTL. Avez-vous pris le Ouigo cet été? Si oui, venez nous dire ce que vous en pensez. Peut-être qu'au contraire, vous trouvez que ces trains low cost sont très bien entretenus. Eh bien, appelez-nous au 3210. Une folle course poursuite ce matin dans les quartiers chics de Paris. On vous raconte tout ça dans un instant sur RTL.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Agnès Bonfillon.
Midi 43 sur RTL. Il comptait fuir à la nage, visiblement. Cette nuit, dans le 8e arrondissement de Paris, rue Saint-Honoré, un homme s'en est pris à un magasin de luxe. S'en est suivie une course-poursuite assez rocambolesque. Bonjour Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour Agnès.
Le braquage à la voiture Bélier s'est finalement terminé dans la Seine.
Un malfaiteur visiblement maladroit, selon la police. Il s'y est repris à plusieurs fois avec sa voiture pour renverser les lourdes portes vitrées de cette boutique Valentino qui vend des sacs et des vêtements de luxe. Juju Lawson, employé de la société Media Alarm, est arrivé sur les lieux à 2h40 du matin, juste après les policiers.
Il a fait marche arrière pour rentrer dedans et pour prendre les sacs de la nouvelle collection. La police l'a rattrapé dans la Seine. Il s'est jeté dans la Seine, mais ils l'ont poursuivi, ils l'ont sorti de là.
Un braqueur qui s'est blessé à la main avec du verre. Au moment de prendre la fuite en voiture, il avait du mal à conduire. Son véhicule a fini accidenté à quelques centaines de mètres seulement de la boutique, hein, place de la Concorde. C'est à ce moment-là qu'il a sauté dans le fleuve, narguant les policiers, leur faisant des doigts d'honneur. « Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne m'aurez pas !» crie le jeune voleur, laissant derrière lui pourtant l'intégralité de son butin. Les policiers ont retrouvé dans son coffre une trentaine de sacs de luxe. Malgré ses remontrances, le suspect a été rapidement interpellé par la brigade fluviale.
Merci beaucoup pour ces informations, Alex. Alexandre de Saint-Aignan pour RTL. 15 tonnes de protoxyde d'azote saisies la semaine dernière en Seine-et-Marne. C'est un record pour ce produit de plus en plus détourné de son usage initial. Il sert normalement, vous savez, au siphon de chantilly, mais il est aussi inhalé pour un usage festif. Il a d'ailleurs été rebaptisé gaz hilarant, Alice Moreno. En fait, cette enquête, elle a débuté par un simple refus d'obtempérer.
Oui, un homme à scooter prend la fuite à la vue des policiers le 7 août dernier à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine. Finalement intercepté, il transporte du protoxyde d'azote azote en petite quantité. C'est cette interpellation qui mène les enquêteurs à un box en Seine-et-Marne. Là, ils découvrent 800 bonbonnes, soit un peu plus de 2 tonnes de ce gaz hilarant, c'est déjà énorme. 4 jours plus tard, alors que les agents de police judiciaire vont saisir le contenu du box, ils découvrent 12 tonnes supplémentaires de ce protoxyde d'azote qui venait tout juste d'être livré. 15 tonnes en tout, donc un record pour une seule saisie. C'est plus du double du précédent record, 7 tonnes qui avaient été saisies en janvier dernier, déjà dans le département de Seine-et-Marne. Les trafiquants sont quant à eux en cours d'identification.
Merci beaucoup Alice Moreno du service police-justice de RTL. Et nous sommes en ligne avec un spécialiste addictologue de l'association Opelia et porte-parole de la Fédération Addiction. Bonjour Jean-Pierre Coutron.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce phénomène qui inquiète de plus en plus, ce gaz hilarant, visiblement, qui touche de plus en plus de jeunes.
Oui, ce qui est inquiétant, c'est qu'il touche de plus en plus de jeunes, et puis des jeunes qui le consomment de façon de plus en plus massive, avec des quantités importantes, sur des durées longues, et il faut savoir que c'est ce mode de consommation, quantité importante, durée longue, qui augmente considérablement les risques et les conséquences sanitaires néfastes de ce produit.
Et pourquoi son usage est-il aussi développé? Cela fait quelques années que l'on en parle et que l'on prévient aussi des risques liés à cet usage.
Alors c'est difficile, hein. Là on est dans des hypothèses. Moi je suis assez vieux, ça fait 40 ans que je suis addictologue, pour avoir connu au moins 3 ou 4 vagues de succès de ce produit. Il y a même des époques où on trouvait des tutos faits des étudiants en pharmacie sur internet pour voir comment le consommer. Et on disait bien, prenez-en un tout petit peu dans une soirée, ainsi de suite. Là on a l'impression que ce produit touche un public de plus en plus large, qui a besoin de s'amuser, qui cherche à s'amuser. Alors peut-être faut les voir avec le côté un peu dépressif de notre société, et qui n'a pas la culture des risques de l'usage de ce produit. Et il faudrait qu'on adapte nos politiques à ça. Voilà, on a l'impression en tout cas, avec la saisie qui vient d'être là, qu'on passe d'un produit à usage marginal à un produit dont l'usage effectivement se répand dans des publics festifs. C'est des jeunes, c'est des ados. On les trouve dans la rue, on les trouve dans les quartiers par terre, dans les quartiers festifs. Le prennent pour faire la fête. C'est très très clair.
Finalement, ce que vous nous dites, Jean-Pierre Coutron, c'est que c'est une drogue comme les autres désormais?
Alors, faut pas exagérer, mais oui, en tout cas, ça commence à être une drogue à usage banalisé. Alors, rappelons-nous hein, qu'une partie de son succès faisait qu'à une époque, comme c'était pas du tout considéré comme une drogue, on pouvait aller l'acheter sans mauvais jeu de mots dans les drogueries et dans les boutiques où on vendait des produits pour cuisine, puisque ça servait essentiellement à ça. Et donc, ça permettait à des personnes qui avaient pas envie d'aller dans les côtés business, trafic, de se procurer ce produit sans trop de difficultés.
Pouvez-vous nous rappeler les risques liés au protoxyde d'azote?
Alors, ils sont connus. Je crois que le meilleur service qu'on puisse rendre, c'est dire allez voir ce qu'ont fait les centres d'addictodépendance qui en disent des choses très précises. On le prend pour des effets de désinhibition, d'euphorie. On récolte des problèmes somatiques, des problèmes psychiatriques, dans des usages chroniques, on récolte des gélures, des brûlures, du haut froid, et puis surtout, on récolte des problèmes d'hypotoxie qui sont dose-dépendants. C'est-à-dire plus on en prend, plus ces problèmes sont importants, et avec des risques d'étouffement, des risques de décès, d'anoxie, comme il y a de plus en plus, avec l'élargissement de ces usages. Mais encore une fois, c'est très dose-dépendant, donc plus on en prend, plus c'est dangereux, et plus on en prend de façon chronique.
Faudrait-il peut-être lancer une campagne, parce que encore une fois, c'est facile à se procurer pour des jeunes. Faudrait-il lancer une campagne de prévention?
Sans vouloir polémiquer, que c'est l'échec des campagnes qu'on fait depuis 5-6 ans, où on a tout basé sur essayer de faire peur d'un côté, en disant les grands dangers, et puis fermer l'accès légal, entre guillemets, en changeant la loi qui fait de ce produit un produit pas tout à fait stupéfiant, mais quand même un peu, ainsi de suite. Ce serait long de vous l'expliquer, mais voilà, on a changé le statut de ce produit. Ça montre que ça marche pas. Pourquoi? Parce que quand vous fermez un robinet qui distribue quelque chose que les personnes continuent de vouloir, eh bien, c'est le marché parallèle qui s'en empare. Donc, en ce moment, on est en train de voir le marché parallèle s'en emparer. Peut-être faudrait-il revenir à des fondamentaux de la, ce qu'on appelle la réduction des risques, c'est-à-dire travailler avec ces publics qui connaissent bien les jeunes, qui ont la culture festive, pour repartir d'une campagne de prévention d'information qui ne serait pas juste destinée aux adultes pour leur dire pourquoi c'est dangereux pour leur enfant, mais qui serait plus destinée aux consommateurs pour les aider à faire la fête, parce que ça, ils vont quand même toujours vouloir la faire, en allant moins vers ce type de produit ou en allant vers des usages moins catastrophiques de ce type de produit. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que ça, c'est en train de devenir un marché qui intéresse les dealers et c'est jamais bon signe.
Merci infiniment Jean-Pierre Coutron d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes addictologue de l'association Opelia et porte-parole de la Fédération Addiction.
RTL Midi.
La suite du procès de Benjamin Mendy à Chester, dans l'ouest de l'Angleterre. Le footballeur français doit répondre de 8 viols. Hier, en exposant les faits, l'accusation a qualifié le champion du monde de prédateur. Bonjour Marie Billon.
Bonjour.
Et le procureur n'a pas fini sa démonstration.
Effectivement, la présentation à charge a continué ce matin, mais là, l'audience est suspendue pour des raisons techniques. Le procureur voulait montrer la vidéo du témoignage enregistré d'une victime présumée, mais ça ne fonctionnait pas. Alors, quand il pourra reprendre, le procureur jouera cette vidéo et continuera à détailler un à un les crimes qu'il accuse Benjamin Mendy d'avoir commis. Dans son exposé à charge, il a décrit comment, selon lui, le footballeur piégeait ses victimes avec l'aide de son co-accusé, les emmenant chez lui dans son manoir reculé, ou bien en les faisant venir en organisant des fêtes autour de sa piscine privée. L'accusation ajoute qu'il confisquait leur portable pour protéger sa vie privée, mais elles se retrouvaient ainsi sans moyen pour appeler à l'aide, parfois isolées de leurs amis présentes ailleurs dans le manoir. D'autres auraient été trop saoules pour consentir ou bien se défendre, selon le procureur. Il parle aussi d'une panic room, une pièce qui ne pouvait être ouverte que de l'intérieur et par une seule personne possédant la bonne combinaison, emprisonnant de fait les victimes à l'intérieur. Alors quand le procureur aura terminé son exposé à charge, a priori donc aujourd'hui, ce sera l'avocate de Benjamin Mendy qui présentera la version de son client, le footballeur a plaidé non coupable de chacun des 10 chefs d'accusation.
Merci Marie Billon en direct du tribunal de Chester pour RTL. Vladimir Poutine accuse les États-Unis de faire traîner le conflit ukrainien et de chercher à déstabiliser le monde. Concernant la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron doit s'entretenir par téléphone avec le président Volodymyr Zelensky, notamment au sujet de la centrale nucléaire de Zaporijjia. En Hongrie, pour faire face à la flambée des prix du carburant, les prix sont plafonnés depuis près de 10 mois, hein, pas plus d'1,20€ le litre. Enfin, ça, ce sont pour les locaux. Cette ristourne ne s'applique pas aux étrangers, citoyens de l'Union européenne ou pas. Véronique et son mari, en vacances à Budapest, l'ont appris à leurs dépens.
Nous nous sommes arrêtés à une station-service. Les prix affichés étaient plutôt alléchants. Et au moment de payer la facture, eh bien, comme nous avions une plaque d'immatriculation française, nous avons payé 2€ le litre d'essence. Ça ne nous a pas choqué. On a été un petit peu déçus, évidemment, mais je pense qu'ils ont de bonnes raisons pour le faire. Voilà, on n'a pas cherché plus loin.
Alors, de bonnes raisons pour le faire peut-être. Sophie Jousselin, bonjour à vous.
Bonjour.
Mais en termes de droit, c'est autre chose. La préférence nationale pour les prix de l'essence, pas sûr que Bruxelles apprécie.
Ah mais Bruxelles n'apprécie pas du tout. Et dès la mise en place de ce double tarif au mois de mai, l'Europe a immédiatement réagi, parlant de discrimination, de non-respect des règles européennes, de non-respect du marché unique. Dans un premier temps, Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur, a demandé à Budapest de cesser cette pratique. Et à la mi-juillet, l'Europe a ouvert une procédure d'infraction. Elle pourrait déboucher sur une action en justice contre la Hongrie et ensuite sur une amende. De son côté, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, a expliqué avoir pris cette mesure pour éviter le tourisme transfrontalier à la pompe. En clair, que les habitants des pays voisins traversent la frontière juste pour faire le plein. C'est un désaccord de plus entre l'Union européenne et la Hongrie qui entretiennent de bien mauvaises relations. Les différends sont nombreux, Budapest étant souvent tenté de faire cavalier seul. Plusieurs procédures sont déjà en cours contre la Hongrie. Son plan de relance est bloqué. Bruxelles menace aussi de ne pas verser ses aides à Budapest.
Merci Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Deuxième journée des championnats d'Europe d'athlétisme à Munich en Allemagne. Et ce soir après 20h, on attend surtout les demi-finales du 100 mètres hommes puisque trois Français sont en lice. Dans un instant, c'est pas la vie d'un athlète qu'on va vous raconter, non, non, non. Mais celle des paludiers à Guérande. RTL en immersion, c'est dans un instant.
RTL midi. RTL en immersion.
Et donc, direction Guérande, avec des paludiers, un métier ancestral qui consiste à récolter le gros sel et la fleur de sel dans les marais salants. La saison bat son plein jusqu'en septembre. Et Nerissa et Mani, vous avez rencontré Émilie et Dominique Desmar, une famille de paludiers depuis 11 générations.
Oui, j'aperçois la saline tout au bout d'un petit chemin en argile. Nous sommes en fin d'après-midi. C'est à cette période que le sel cristallise sur ces grands bassins que l'on appelle des œillets. Et je vais retrouver tout de suite Émilie et son père. Bonjour Émilie, bonjour Dominique.
Bonjour. Salut, bonjour.
J'ai un peu froid. Il fait beau, mais il y a du vent. Je suis avec un petit t-shirt et un petit jean. C'est pas vraiment la tenue du paludier, quoi.
Non, on met la vareuse. Ça couvre un peu, justement, du vent qui est beaucoup plus frais. La plage, là, il fait chaud. Et dans les marais, c'est toujours un peu plus frais.
On y va, c'est quoi la première étape?
Ben là, on va aller porter les tas de gros sel qu'il y a sur la saline. Là, il y a environ 50 kilos, donc on va prendre la pelle, la brouette.
Donc on enlève d'abord le gros sel avant de récolter la fleur de sel.
Oui, parce que sinon ça va nous gêner pour passer sur les bassins. On a chargé et là on va mettre dans la brouette.
Je te laisse faire. Ok. C'est pas léger. Mais ça, c'est costaud, il faut se faire les muscles, c'est vraiment un métier physique.
Hyper physique. Ouais, là on gagne les abdos, on gagne les biscottos.
Et on serre les dents parce que des tas comme celui-ci, il y en a 8, un par œillet. Il faut ensuite mettre ce gros sel sur une grande montagne de sel à l'entrée de la saline qui correspond à l'ensemble de la récolte depuis le début de la saison.
Alors voilà pour le gros sel, Nerissa, et pour la récolte de la fleur de sel, ça se passe comment?
Eh bien, c'est tout aussi physique. Émilie me présente d'ailleurs un outil avec un long manche qui fait 5 mètres.
On va cueillir la fleur de sel avec la lousse. Une cuillère passoire, moi je dis, qui est plate.
Donc là, on est face au bassin et donc on voit une couche blanchâtre qui est en fait la fleur de sel qu'on va récolter.
Ouais, c'est la cristallisation de surface. C'est possible que quand on a de l'évaporation, c'est-à-dire du soleil, du vent, un temps sec. Dès qu'il pleut, bah, y a rien qui se passe. Je vais te tenir ton micro et tu vas prendre la lousse. On échange d'outils, on échange de métiers. Tu vas la récolter là, devant toi.
Alors, et là, je racle.
Tu fais le geste parallèle. Et là, tu lèves.
Ok, donc là, je vais mettre la fleur des sels dans la brouette.
Et là, on va aller voir ce que tu as ramassé. Si c'est bien blanc.
Il y a quand même de l'argile, c'est pas bien du tout ça.
Donc on enlève.
Et après avoir nettoyé la fleur de sel, on la met dans des bocaux pour la vendre à des locaux, mais aussi à des touristes. Et ça se passe directement sur la saline.
Et là, c'est ma boutique.
Voilà.
Avec tout type de sel.
Donc fleur de sel, du sel aromatisé,
au poivre, aux fleurs, et puis le gros sel avec différentes quantités.
Alors comment je peux t'aider, Émilie?
Est-ce que tu veux bien aller chercher le seau de 4 kilos de fleurs de sel?
Bien sûr, c'est tout. Aussi de la manutention de toute manière, ce métier. Et voilà, derrière.
Bon, avec ce qu'on entend, hein, vous êtes prête à devenir paludière, Nerissa?
Il va me falloir quand même un peu d'entraînement. C'est un métier très physique et je n'ai pas encore les bras pour. J'ai d'ailleurs eu des courbatures dès le lendemain du reportage. Pour vous donner une idée, Émilie et Dominique soulèvent chaque jour jusqu'à 400 kilos de sel. Un travail quotidien pour ces indépendants qui réussissent à se verser un SMIC chaque mois. Alors j'ai quand même demandé, pour être paludier, il existe une formation unique au monde à Guérande. Elle dure un an avec de la pratique et des enseignements sur la biodiversité, la gestion d'entreprise. Mais le vrai problème en réalité, c'est de trouver une place dans les marais salants. Les salines se transmettent de génération en génération et quand il y en a une à vendre, eh bien, bien souvent, il faut la remettre en état. Donc vous l'aurez compris, c'est avant tout un métier passion.
Un métier passion que vous nous avez fait découvrir. Merci Nerissa et Mani. En reportage à retrouver comme tous les autres RTL en immersion sur le site rtl.fr et l'appli RTL. Dans un instant, c'est vous qui avez la parole au 3210.
RTL Midi.